Hello à tous! Dans cet épisode, tu vas entendre la parole de plusieurs femmes. Le but aujourd'hui est de te poser, toi aussi, des questions sur ta propre vision du bonheur et de faire un tour d'horizon sur ce qu'on abordera dans les autres épisodes de ce podcast.
Bienvenue sur le podcast Putain de Bonheur, le podcast qui a pour but de te faire sourire, te faire réfléchir et te sentir bien.
Et c'est déjà pas mal!
Moi, c'est Hélène.
Et moi, c'est Fanny. Notre objectif, qu'après l'écoute de chaque épisode, tu te sentes plus légère, plus inspirée, plus confiante et avec de nouvelles perspectives sur différents sujets. Mieux-être, spiritualité, santé, relations, argent, sexualité.
Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-nous t'embarquer dans notre aventure qui te rappelle que le bonheur, parfois, peut être un putain de voyage.
Hello! On vous souhaite la bienvenue sur ce tout premier épisode du podcast Putain de Bonheur. Ça y est, on y est, on se lance, on a trop hâte, on est super contente. On a peur aussi, mais on y va. Alors je dis on, car tu l'as compris, on est à deux à se lancer ce grand défi. Moi c'est Fanny.
Et moi c'est Hélène. Pour ce tout premier audio, on a beaucoup hésité. On a même enregistré tout un épisode de présentation, et puis au final, la veille du lancement prévu, on a tout revu. On s'est dit que de toute façon, on ferait connaissance avec toi qui nous écoutes au fur et à mesure des épisodes. Bref, comment commencer au mieux un podcast qui veut parler de bonheur ?
Eh bien, en se demandant déjà si nous étions heureuses. Et rapido, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir le point de vue d'autres femmes à ce sujet et sur les thématiques qu'on a envie d'aborder. La santé, le mieux-être, les relations, l'argent, la sexualité, la spiritualité...
Pour nous, ces sujets regroupent plein de questions, de débats, d'expériences sur lesquelles on a déjà partagé lors de nos longues discussions entre copines, ou que l'on a envie de découvrir et qui peuvent nous aider au quotidien à nous sentir mieux, à apprécier les moments où tout va et à mieux naviguer sur les moments où ça va moins bien. Alors, on a été interrogées des femmes. Elles s'appellent Pauline, Floriane, Rebecca, Marion, Caroline, et elles ont accepté de partager avec nous leur vision du bonheur.
Ça fait vachement fait entrer l'accusé là. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. On est parti du constat avec Hélène que, même si on se sent très bien dans notre vie actuellement, qu'on se sent comblée, chanceuse, eh bien aucune de nous n'arrivait à s'évaluer à 10 sur 10 sur l'échelle du bonheur.
Mais pourquoi se limiter à une échelle qui ne va que jusque 10 ? Non, nous ce qu'on veut c'est qu'elle aille à l'infini et même au-delà. Mais on sait aussi que parfois c'est important, sur toute ou partie du chemin, de passer dans la matière, dans le concret, dans la note, pour faire un point d'étape, un constat, une mesure, et se voir évoluer par la suite. D'où notre petite échelle du bonheur.
Donc on s'est demandé finalement si on était les seuls à ressentir ça, si on était les seuls à se sentir éternellement insatisfaite, quoi, avec toujours l'impression de pouvoir être mieux ou avoir mieux, enfin, voilà, avec toujours ce sentiment qui nous manque, un petit quelque chose qu'on peut toujours améliorer. Et du coup, on a posé la question à des femmes, est-ce que tu es heureuse ? Et sur une échelle de 0 à 10, finalement, à combien tu te situerais sur cette échelle du bonheur ?
Bah écoute, effectivement sur cette échelle de 0 à 10, alors je peux pas dire que je suis à 10, hein, ce serait me fourvoyer. Ouais, j'aurais envie de te dire je me situe plutôt entre 7 et 8 quoi. Donc voilà, j'avance sur l'échelle du bonheur.
Je dirais 7 sur 10. 7,5, parce que j'ai tendance à vite me laisser déborder et que j'ai découvert qu'en fait j'étais quelqu'un d'assez, comment dire, nerveux, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, j'en avais pas du tout conscience. Et donc du coup j'ai un travail à faire sur ça, il faut absolument que je trouve une organisation pour me sentir plus sereine, ce qui me permettra du coup de me sentir forcément plus heureuse. Après il faut aussi que je fasse un travail sur ma confiance en moi, parce que ben, ça aussi ça me rendrait bien plus heureuse d'avoir plus confiance en moi, et de plus faire forcément attention au regard des autres pour vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre en fait.
Alors moi, je me sens pas particulièrement heureuse. Je pense que je suis 5 neutre. Légèrement heureux, voire 6.
Je dirais entre 8 et 9.
Je pense qu'on en veut toujours plus, hein, c'est clair. Au quotidien, tu peux jamais être 100% ivre de bonheur. Hein. Tu as toujours un petit grain de sable qui vient se mettre là, quoi. Il y a deux catégories, je dirais, les petites choses bêtes de la vie. Tu vois, là, le fait que Rim soit malade, ça me stresse, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ça me questionne, je me dis, ah, on va passer une mauvaise nuit peut-être, et finalement, la nuit s'est super bien passée en plus. Mais ouais, tous ces petites... ce petit stress du quotidien pour des broutilles. Et puis après, je pense que t'as aussi ce qui touche à tes rêves inaccessibles, tu vois, de te dire mon Dieu, mais si je gagnais au loto, je serais super heureuse, je ferais beaucoup plus de choses, je me poserais moins de questions.
Et aussi, je rajouterais un peu de fun dans ma vie. C'est peut-être un peu étrange, mais je trouve régulièrement que ma vie manque de fun, des petites étincelles comme ça, des petites folies. Je trouve que c'est assez, assez calme et ça me manque. Et aussi dire les choses quand je les ai sur le cœur et pas une fois qu'il est trop tard. Ça aussi, c'est très important. Je pense que ça m'aiderait beaucoup. Voilà.
Comme tu as pu l'entendre, on se pose un tas d'injonctions vis-à-vis du bonheur. Les « il faut que », les certitudes, les croyances limitantes, autant de choses à déconstruire qu'à construire autour de ce putain de bonheur. Allez, on continue avec le thème prometteur de la santé et du mieux-être. Comment tu te sens au niveau santé, bien-être ? Est-ce que tu trouves ton hygiène de vie satisfaisante ? Et comment est-ce que tu te sens au quotidien ?
Pendant longtemps, j'ai pas pris soin de moi, donc pendant longtemps, c'était presque une fierté entre guillemets de dire, tu vois, moi je vais jamais chez le médecin, quoi, je suis jamais malade. Et en même temps, j'avais quand même des troubles physiques ou même des fois psychiques qui auraient dû m'emmener chez un médecin, mais j'ignorais un peu tout ça. Et puis j'ai appris à prendre soin de moi. On peut quand même dire qu'en France, on a un système de santé qui est assez exceptionnel et qui nous permet surtout de faire de la prévention. Et ça, je suis en train de réaliser aussi que c'est hyper important, en fait. Donc, c'est vrai que quand t'as 40 ans, ta gynéco te dit « ce serait bien de faire une première mammo ». Là, tu ressors du truc en disant « mais attends, j'ai que 40 ans, quand t'écoutes les infos, c'est 50, enfin, pourquoi maintenant ?» Là, il y a une espèce d'hypocondrie qui arrive en disant « ça va pas le faire », et puis finalement, c'est juste de dire « ben voilà, on a la possibilité de faire une photo à un instant T sur le sujet, on sait que c'est... le cancer du sein aujourd'hui, c'est quand même une des maladies qui touche beaucoup, beaucoup de femmes. Et mon entourage me le montre pas tous les jours, mais presque. Donc, accepter aussi ces suivis médicaux de précaution et de prévention, c'est important. Donc, oui, aujourd'hui, je prends plus soin de moi. C'est vrai que je consulte plus de médecins. Qu'auparavant, et puis aussi parce que y a un moment où j'ai pas pris soin de moi pendant de nombreuses années, y a un moment où mon corps me l'a bien bien rappelé, parce que j'ai longtemps cru que la tête et le corps étaient deux entités qui pouvaient avancer séparément, et je me suis pris une grosse claque dans la figure il y a quelques années quand j'ai compris que ce n'était pas le cas. Et donc aujourd'hui, j'arrive à prendre soin de moi au travers aussi des suivis médicaux. Ouais.
J'ai le cœur d'une femme de 70 ans alors que j'en ai que 32. Parce que je fais pas de sport, hein, j'en fais vraiment pas. En plus, j'ai un travail qui est très sédentaire. Et pour le peu de fois où je monte, par exemple, plusieurs étages ou quoi, je suis vraiment à bout de souffle. Et donc, je sais qu'au final, j'ai l'impression d'être en bonne santé, mais c'est pas le cas. Voilà. Donc, ça, je sais qu'il faudrait vraiment que je m'y mette. Après, au niveau de l'alimentation, j'essaie justement de faire plus attention. Donc là, depuis la rentrée, c'est marrant du coup qu'on en parle, je fais un planning de menus à la semaine, ce qui fait que du coup, les repas sont plus équilibrés et ça me permet de me sentir moins pressée quand je rentre le soir parce que je sais déjà ce qu'il faut faire. Ça me permet de faire des plats à l'avance et du coup, on mange mieux. Donc, au niveau alimentation, je pense que ça va. Bon, c'est pas non plus magnifique, hein. Je sais que ça manque de légumes, mais je pense qu'on est plutôt pas mal.
Puis hypersensible, donc je sais que c'est un terme assez à la mode, mais voilà, moi je me suis fait diagnostiquer. Donc des fois je peux ressentir une empathie exacerbée par rapport à des gens que j'aime, par rapport à des situations d'injustice, par rapport des fois juste aussi la fatigue en fait dans une journée parce que je travaille avec de la clientèle ou des personnes donc j'ai le contact humain tous les jours selon ce qu'une personne va me dire, si c'est dans le positif ou le négatif, ça peut m'impacter. Je suis très facilement influencée par mes émotions, la tristesse, la fatigue, la... qui n'est pas une émotion d'ailleurs, mais bon, la tristesse, la colère, je me laisse vite influencer, mais ce qui est cool, c'est que quand il y a quelque chose de bien, donc par exemple, je suis inscrite à un cours de dessin et quand je suis apaisée dans ce que je fais, que je crée, et ben, bah, ma joie, elle est là aussi, quoi, et ça se voit direct sur ma tête.
On ne sait pas pour toi, mais nous, on s'est plutôt bien reconnus dans ces paroles de femmes. On sait ce qui est censé être bon pour notre santé, on sait comment avoir une bonne hygiène de vie, mais on ne sait pas toujours comment passer à l'action. On s'est aussi reconnu dans le fait que oui, ce n'est pas toujours facile de s'accepter, d'accepter notre fonctionnement et les émotions qui nous traversent, surtout celles que l'on catégorise comme négatives, la tristesse, la colère, la peur. Et justement, en parlant de relations avec soi-même, on enchaîne maintenant sur les relations.
Comment tu te sens dans tes relations, avec toi-même, avec les autres? Est-ce qu'il y a une relation que tu aimerais améliorer?
Si j'avais encore quelque chose à travailler, et finalement c'est quelque chose qui m'anime toujours, c'est ma capacité à, dans toutes ces relations, que ce soit dans mon couple, au sein de ma famille, avec mes amis, avec ma fille aussi, qui tend vers l'âge de l'adolescence, ce serait de continuer à apprendre à dire non, ou à dire stop, ou à dire ben non, en fait, moi je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer ou en train de se dire, et de pas avoir peur en fait, de pas avoir peur de dire ce non ou ce stop. Et ça, c'est oui, c'est encore quelque chose que j'ai du mal à faire, parce que derrière tout ça, il y a le besoin d'être reconnu, la peur de décevoir, ou la peur qu'on ne m'aime plus en fait quand je dis non, ou quand j'affirme un point de vue qui est pas en cohésion avec le reste du groupe, par exemple.
La question, c'est que... que faire? Tu ne peux pas changer les gens. Moi, j'ai déjà essayé de changer ma façon de parler, de lui dire les choses différemment. À partir de là, elle arrête de communiquer. Donc, quand quelqu'un arrête de communiquer, c'est difficile de résoudre un problème. Et pareil avec Antoine, d'ailleurs. Antoine, quand il y a un problème, fuit. Donc, quand quelqu'un ne communique pas, c'est difficile de régler un problème.
Quand la personne, il y a 2 jours, m'a parlé avec colère et agressivité, c'est-à-dire arriver à ne pas rentrer dans son jeu et ne pas lui renvoyer de la colère. Mais j'y suis pas encore.
S'affirmer devant des amis ou des collègues, bien communiquer avec ses proches, parents, conjoints, enfants, mais aussi savoir gérer ses émotions dans les relations difficiles. Encore une fois, tous ces échanges nous ont beaucoup parlé. Nous aussi, on se sent plutôt bien en général dans nos relations, et nous aussi, on a des points qu'on aimerait améliorer, sans savoir parfois comment s'y prendre. Il nous est aussi déjà arrivé d'avoir de bonnes relations avec une personne et de se rendre compte qu'un jour, les choses ont changé, évolué. Pas facile de sortir alors des relations qui ne nous correspondent plus. La prise de conscience sera une étape importante, mais l'après le sera tout autant, pour ne pas passer des heures à se demander si on a bien fait d'écouter son cœur. Là encore, il y a plein d'outils pour avancer sur ce thème qu'on prendra plaisir à te partager dans ce podcast. Maintenant, passons à un tout autre sujet mais qui a tout autant sa place dans notre bonheur, l'argent.
L'oseille, le flouze, l'argent, est-ce que c'est un sujet OK pour toi ? C'est quoi ta relation vis-à-vis de l'argent ?
Avoir de l'argent et bien l'utiliser, bah, ça contribue, enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais je pense que ça contribue aussi forcément à une espèce de sérénité. Ça fait pas le bonheur, on le sait tous. Mais comme le dit le dicton, quand même, ça y contribue fortement, dans le sens où moi je suis convaincue que la richesse de la vie elle est pas là, mais que quand t'as pas de problème d'argent, c'est quand même beaucoup plus simple, quoi.
La relation avec l'argent a toujours été compliquée pour moi, car j'en ai toujours manqué en fait. J'étais étudiante sans parents qui m'aident à côté, donc avec des... Bah, je travaillais, j'étais caissière, je faisais mes études, mon master en même temps. Après, j'ai galéré à trouver du travail parce que le milieu culturel ne recrutait pas beaucoup. J'ai toujours fait des boulots CDD par-ci, période de chômage. Donc j'ai toujours été un peu en galère, la galérienne financière. Et ça fait depuis un an là que je me stabilise. Mais du coup, par exemple, je me fais plaisir, des petits plaisirs que je faisais pas avant, et je flambe des fois et je me rends compte. Donc j'essaye d'être beaucoup plus raisonnable parce que je pense que c'est comme un régime restrictif. Pendant des années, on t'empêche de manger du chocolat, et bah quand tu peux, t'y vas. Donc ma relation avec l'argent, elle est un peu complexe. J'ai pas honte d'en parler, mais c'est quelque chose pour moi que j'aimerais apprendre à gérer un peu mieux. L'argent, par exemple, a été beaucoup source de stress chez moi, a développé beaucoup d'anxiété quand j'en manquais, car j'avais peur de ne pas réussir à survivre au mois, j'avais peur de ne pas développer mes rêves. Donc ça a toujours été quelque chose de très bizarre chez moi, l'argent.
Oui, je me sens riche. Tout ce dont j'ai besoin m'est donné, dans le sens où, par exemple, on m'a donné une tente, des gens qui m'ont pris en stop m'ont donné une tente. Ensuite, un monsieur que je rentre au monastère m'a donné un vélo. Et en fait, si j'ai besoin de quelque chose, bah, je sais que je vais l'avoir. Ce dont j'ai besoin, que ce soit de la nourriture, que ce soit des objets matériels, je les ai. Et à côté de ça, je suis hyper riche de tous les enseignements que je reçois sur ma route et des rencontres sur ma route. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix. Les gens qu'on rencontre et avec qui on crée un lien, ça n'a pas de prix.
Alors là, si vous avez reconnu, c'est un petit clin d'œil à Nancy Mout de Nu et Culotté. Petit aparté confidence, notre rêve, c'est de les recevoir un jour sur ce podcast.
Des témoignages si différents, et pourtant, personnellement, je me suis sentie comme en accord avec chacun d'eux. Cette impression d'avoir la chance d'avoir assez d'argent pour se faire plaisir, avec en même temps cette peur sous-jacente de manquer, dû certainement à un début de vie d'étudiant, de galérienne, comme dit Marion, et ce sentiment aussi finalement d'en avoir peut-être trop, d'en être parfois esclave, d'en avoir et de ne pas avoir l'impression de le mériter. Ou ne pas l'assumer par peur souvent inconsciente de trahir ses racines, sa famille, sa classe sociale d'origine. Bref, l'argent, c'est bien un sujet de développement personnel à part entière, non ? Et voyons maintenant un autre sujet intéressant, le sexe.
La sexualité, est-ce que c'est un sujet important pour toi ? Est-ce que t'en parles ? Comment tu te sens dans ta sexualité ?
Eh bien, je me sens mieux. Alléluia. Moi, je me suis rendu compte que t'as un cercle vertueux, c'est-à-dire que si tu te sens bien dans ton corps, tu te sens plus à l'aise du coup dans ta sexualité. Enfin là, attention, hein, je parle de moi. Et si tu te sens plus à l'aise dans ta sexualité, tu te sens libérée, en fait. Et si tu te sens libérée, eh ben, tu prends confiance en toi. Et voilà. Et si tu as confiance en toi, ben, après, ça, ben, voilà, ça débouche sur plein de choses. Et effectivement, ben, là aussi, entre guillemets, je sais de quoi je parle parce que, ben, voilà, j'ai eu aussi une période creuse sur ce plan-là. Et là, je vois bien que, voilà, l'estime de soi qui augmente, ça joue sur une meilleure sexualité, sur une meilleure approche de son propre corps, sur de la bienveillance. Et ouais, on se sent mieux, quoi. On se sent mieux.
C'est un sujet super libre avec mes amis. Donc, on en discute entre amis, tout ça. Mais c'est vrai que je suis pas sûre, moi, d'être assez à l'aise pour discuter de ça avec d'autres personnes. Sachant que moi, je suis pas forcément épanouie dans ma sexualité. Non pas par rapport à mon partenaire, mais par rapport à moi et ma relation avec le corps. Je me suis jamais sentie féminine, femme. C'est quelque chose que je réapprends au fur et à mesure.
J'ai pu expérimenter la sexualité où on est connecté à d'autres niveaux et pas juste avec notre corps. Et là, en effet, la personne que j'ai rencontrée sur ma route, c'est avant tout une connexion spirituelle, avant même d'être une connexion avec le corps et tout. Les autres parties de la question, la sexualité solo, j'ai pas de tabou là-dessus. Je trouve que justement, au lieu de se sentir frustrée sexuellement et d'avoir envie de combler ce manque par, on va pas dire n'importe quel partenaire, mais quelqu'un qui passe par là, pour les gens qui sont célibataires, moi je préfère me faire du bien toute seule qu'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un avec qui finalement j'ai pas trop de connexion.
Souvent, sexualité est associée à relations sexuelles à deux. Mais on le voit à travers les paroles de ces femmes, ce n'est pas que ça. La sexualité peut être aussi solo, peut aussi influencer son rapport au corps, à la confiance en soi, aller jusqu'à la connexion un peu plus spirituelle, et donc impacter différentes sphères du quotidien. En parlant de connexion spirituelle, parlons maintenant, et pour ce dernier sujet, de spiritualité.
Et si je te dis spiritualité, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Quand tu dis le mot spiritualité, du coup, ça m'évoque une forme de sagesse et de retour à soi et à l'essentiel. Ça pourrait évoquer aussi des croyances en quelque chose de supérieur. Moi, je suis pas croyante, mais c'est vrai qu'il y a des événements dans la vie qui me posent question, quoi, des espèces de coïncidences, des synchronicités de dingue, pas récemment, mais depuis un certain temps, je m'intéresse un peu au karma. Et en fait, voilà, la spiritualité, ça m'évoque tout ça. C'est pas un sujet. Je lis pas, je vois, il y a des gens qui lisent plein de bouquins par rapport à tout ça, qui sont hyper spirituels dans leur façon d'être. Dans leur façon d'aborder la vie, etc. Moi, j'ai pas l'impression de l'être vraiment, et en même temps, c'est quelque chose qui m'attire. Et donc, oui, la spiritualité, encore une fois, pour moi, c'est ça, c'est une espèce de croyance en quelque chose de plus grand que toi, que moi, que nous, et comment, moi, dans ma vie de tous les jours, je fais ma petite part et je contribue, en fait, à ce truc un peu plus grand que moi.
C'est un peu comme quelqu'un qui te parlerait de, je sais pas, sa religion ou je sais pas quoi, en se disant que c'est mieux et que ça l'aide à être bien. Je le crois bien volontiers, mais pour moi, je crois pas.
Oui, pour moi, c'est que du positif et ça m'aide beaucoup parce que, voilà, moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose de plus grand que nous tous. Je suis sûre de ne pas être toute seule, en fait. Je suis sûre d'être accompagnée et ça me rassure. Ça me rassure vraiment. Et voilà, et ça m'aide aussi, je pense, dans cette quête du bonheur.
La spiritualité, peut-être qu'aujourd'hui ça ne te parle pas du tout, ou peut-être que tu as déjà ouvert cette porte. Mais peu importe finalement, parce que voilà, chacun aura sa propre spiritualité et bah, finalement mettra un petit peu ce qu'il veut derrière tout ça. Pour nous, en tout cas, ça a été une découverte positive dans notre cheminement et ça nous a apporté un nouveau regard sur la vie. On pense que ça a un lien avec le bonheur et c'est pour ça qu'on voulait en parler dans ce podcast.
Et voilà, on arrive à la fin de ces extraits, des échanges qu'on a pu avoir autour de ce vaste sujet du bonheur. On se rend compte que, autour de tous ces sujets, on a finalement toutes beaucoup de questions qui se ressemblent, ou en tout cas beaucoup de préoccupations communes. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer ce podcast, pour pouvoir en parler. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en en parlant, ben déjà ça nous faisait du bien, ça nous permettait d'y voir plus clair, de pouvoir s'ouvrir à d'autres points de vue, de prendre du recul, de déculpabiliser, d'y réfléchir et d'avancer, quoi. En tout cas, encore un grand merci à Marion, Rebecca, Floriane, Caroline et Pauline pour leur authenticité et d'avoir accepté de se prêter au jeu des interviews. Vous avez été géniales et grâce à vous, on a kiffé préparer ce premier épisode. Et en parlant d'épisode, petit teasing en avant-première sur le deuxième épisode, comment s'apaiser en 5 minutes. Tu sais, ces moments où on en a l'impression d'être submergé, désorganisé, débordé, ou dans ces moments où on a du mal à arrêter de penser, où notre mental se focalise en boucle sur les mêmes pensées, sur des moments du passé, du futur. Bref, tous ces petits moments que l'on connaît bien, dans lesquels on aimerait juste avoir un petit outil pour mettre pause, quoi. Eh bien, c'est ce qu'Hélène te présentera dans le prochain épisode. On a plein d'autres sujets en préparation, mais si en écoutant cet épisode, un thème en particulier t'interpelle ou que tu souhaites qu'on aborde, bah, n'hésite pas à nous le dire sur les réseaux sociaux ou par mail. Et tu as tous les liens dans la description de l'épisode.
Et voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode. Alors on te remercie d'être encore là et d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'à la fin. Et si tu ne veux pas louper le prochain épisode, rejoins-nous dans l'aventure Putain de Bonheur. On te promet du rire, peut-être des larmes, du concret, des émotions et surtout la merveilleuse sensation de te sentir pleinement vivante. À très vite.
J'ai dit un peu, Tiffany, elle me demande la définition du bonheur pour moi. Je vais dire c'est ça. En fait, on était devant le barbecue, tu vois, il était, fin de soirée, 22h30, les filles étaient au lit, tout le monde dormait, dehors il faisait bon temps, on a fait un petit barbecue, j'étais en train de mettre mes chamallows sur ma brochette au barbecue. Écoute, j'ai vécu le moment et je me suis dit, ah, je suis trop bien là, je suis trop contente, je vais aller même faire un petit tour dans le hamac avec ma brochette de chamallows. Je vais regarder les étoiles et c'est ça le bonheur.